Inter, le 18-20.
On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. On connaît la formule mille fois répétée de Pierre Desproges, bien commode pour ne pas aller plus loin dans la réflexion, car rire de tout n'est pas donné à tout le monde. Et puis rire de qui, de quoi, pourquoi, la moquerie gentille ou la stigmatisation, ce n'est pas tout à fait la même chose. D'autant que les temps ont bien changé. À l'ère d'Internet, du mobile, des réseaux sociaux, la caisse de résonance s'est démultipliée. Tout à chacun participe aujourd'hui au débat public. Alors, entre la complaisance un peu triste et la méchanceté gratuite. L'humour peut-il être un juste milieu? C'est ce dont nous allons débattre dans ce téléphone sonne. 01 45 24 7000 pour nous appeler, franceinter.fr pour nous écrire.
Yves Decamp, le téléphone sonne.
Premier auditeur pour lancer le débat, c'est vous, Eric, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Callian dans le Var.
Oui, je vous appelle de Callian dans le Var, et si on repart du principe de Desproges, on peut rire avec tout le monde, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Je voulais savoir comment on peut définir l'humour, et dans le cadre où on s'interroge beaucoup de savoir si un humoriste tombe sous le coup de la loi, je voulais savoir si on peut envisager de légiférer sur l'humour sans rire.
Légiférer sur l'humour sans rire, déjà ça fait rire Plantu, donc qui est l'un de nos invités de ce téléphone sonne, hein, dessinateur au Monde et à l'Express, qui publie au Seuil un recueil de ses dessins de 2017 intitulé Les toutous du président. On en a parlé tout à l'heure. Nous a rejoint François Jost, sémiologue, professeur à Paris 3 la Sorbonne, qui publie La méchanceté en acte à l'ère numérique, d'Arakiri jusqu'au reality show, hein, comment la médisance s'est démocratisée en devenant un spectacle. C'est un essai qui est à paraître en janvier aux éditions du CNRS. Et puis en ligne tout au long de l'émission, avec nous des humoristes que les auditeurs de France Inter connaissent bien. Pour commencer, Nicole Ferroni, qui est tous les mercredis matins sur France Inter à 8h05. D'abord, pour réagir donc à cette question d'Éric, définir l'humour, François Joss, alors, ce sera possible?
En tout cas, la question qui est posée, est-ce qu'il y a des problèmes, critères juridiques pour trancher, savoir ce qui est drôle et pas drôle? Je trouve qu'il faut rappeler au départ ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, qui dit que la liberté d'expression vaut aussi bien pour les informations ou les idées inoffensives que pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Donc il est bien dit que la liberté d'expression permet de choquer une partie de la population. Mais, continue-t-elle, le principe de la dignité de tous les êtres humains et donc la sanction de toutes les formes d'expression qui propagent, incitent et promeuvent ou justifient la haine fondée sur l'intolérance. Voilà. Donc il y a quelque chose d'assez clair, si vous voulez. C'est pas aujourd'hui, on a effectivement plein d'associations qui réagissent sur telle ou telle plaisanterie. C'est, j'allais dire, une fraction quelconque de la population. Ça ne doit pas envahir, faire supprimer tout humour.
Quand notre auditeur se demande si on pourrait légiférer, ça existe, il y a un cadre légal.
Il y a un cadre légal. On légifère, notamment la Cour européenne des droits de l'homme a décidé pour Dieudonné ce qui relevait de l'humour pour un film qu'il avait fait qui s'appelait L'Antisémite, où la Cour européenne a considéré que c'était une fiction et qu'on s'amusait d'un personnage, en l'occurrence c'était un antisémite qui cherchait un psy juif pour ne plus être antisémite. Et la Cour a jugé, donc là, a relaxé Dieudonné, alors qu'elle l'a condamné dans le cas de bien connu où Forisson était monté sur scène, où il avait montré des gens avec des pyjamas rayés pour évoquer la guerre, le génocide. Et là, la Cour avait considéré que ça, on n'était plus dans un spectacle d'humour, mais dans un meeting politique. Donc, il y a des critères objectifs.
Donc, et l'un de ces critères, si je vous suis bien, François Joss, c'est le cadre dans lequel se déploie l'humour. Non, la fiction, oui.
Absolument.
Mais dans le discours sérieux, non.
Voilà. Ça, c'est une des choses principales. C'est-à-dire que on ne doit pas légiférer sur ce qui se passe dans la fiction. Que l'on condamne quelqu'un qui, sérieusement, dans un journal radiophonique ou télévisé, dit des propos sexistes, c'est normal. Que ceci soit à l'intérieur d'un jeu où la personne joue un rôle, où c'est un personnage qui joue un rôle, c'est tout à fait légitime. Le problème aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que avec ce qu'on appelle le stand-up, la différence entre le lecteur qui joue et la personne n'est plus très très nette. Quand Gad Elmaleh se fout du blond, C'est pas lui. Voilà, mais pourtant, par moment, c'est peut-être un peu lui. Alors, c'est ça qui est ambigu.
Plantu ?
Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, le blond de Gad Elmaleh, que j'aime beaucoup, j'adore ces spectacles. Des fois, quand on sent et on entend les rires de la salle, on sent que c'est une salle qui se fait plaisir à se moquer du blond. Et l'artiste que j'admire dit quelque chose et la salle dit autre chose.
Oui, mais là, il n'y a pas de stigmatisation. On ne stigmatise pas les blonds. Là, on est vraiment dans l'humour. C'est un stéréotype.
Moi, j'adore. Mais j'entends bien que le blond, c'est l'autre et la salle rigole du blond. Et d'ailleurs, je me retrouve des fois dans des écoles où je me sens petit blond. Ouais. Et pour ne pas dire petit blanc.
Et peut-être que si c'était des blondes, ça serait plus critiquable.
Il faut rire aussi des blondes.
Il y en a eu un paquet pourtant.
En fait, il faut rire de tout ça. Il faut juste savoir. Il y a le petit paquet cadeau qui l'accompagne et qui fait comprendre que. Là, vous parliez de Tim Seat là tout à l'heure. Je trouve que, par exemple, Tim Seat, quand il fait des blagues où il dit j'ai adopté un petit Algérien, il était tout petit, il avait 10 ans, tout ça. J'ai adopté un petit Suédois, j'ai adopté. Et puis après, il dit j'ai adopté un petit Juif. Et puis, au bout de 3 mois, il a mis mon appartement à son nom. Alors moi, ça me fait rire. Mais on est dans le casse-gueule. Et Moi, j'aime Tim Seat, j'aime cette blague, mais on est dans le casse-gueule.
Aujourd'hui, on est dans le casse-gueule, mais des proches avaient fait bien pire, et Coluche aussi.
Oui. Mais je trouve que c'est très
bien. C'est l'époque qui a changé.
Non, Tim Seat continue à la faire, mais je sais très bien que c'est ce genre de sujet très casse-gueule. Et si moi, je le fais dans un dessin, alors là, je ne termine pas la journée.
Tim Seat a trouvé une parade, c'est qu'en fait, il plaisante de toutes les communautés, ou en fait, d'un grand nombre de communautés. Donc ça égalise, quoi. C'est 15 partout.
C'est très casse-gueule. C'est très, très casse-gueule, et j'aime le casse-gueule.
Alors, avec nous en ligne, elle n'est pas blonde du tout, Nicole Ferroni, qui intervient non pas à 8h-5, comme j'ai dit, mais 9h-5, tous les mercredis matin. Bonjour, Nicole.
Bonjour.
Alors, vous venez d'entendre le début de ce débat. Qu'est-ce qui vous fait réagir?
Je rejoins assez le propos concernant l'ambiguïté sur la posture qu'on peut avoir quand on est humoriste entre la personne et le personnage. Parce que moi-même j'avais dans mon spectacle un personnage comme ça, un peu à l'image de Tim Seat, justement, où je jouais quelqu'un de cynique qui se moquait de la maladie de la mucoviscidose du fils de mon majordome. Et c'est vrai qu'une fois, il s'est avéré qu'il y avait dans mon public, une maman qui était venue avec son fils qui était atteint de mucoviscidose. Et là, j'avoue que personnage, malgré le paravent qu'on peut avoir du personnage, à un moment donné, il y a quand même la réalité de la personne qui entend ce propos-là et qui ne voit pas le paravent, ou qui comprend que malgré tout, qui peut avoir la vérité qui lui revient forcément dessus. Et c'est vrai que moi-même, c'est par exemple quelque chose que je porte, enfin ce malaise-là, ce jour-là, je le porte depuis longtemps, et je vois la difficulté qu'on peut avoir à être sur cette ligne-là où à la fois c'est nous qui parlons et à la fois c'est pas nous. Et à devoir assumer des propos qui sont à la fois les nôtres et à la fois pas forcément ce qu'on pense.
Mais dans l'humour, il y a forcément quelqu'un qui va se sentir blessé.
Voilà.
Forcément.
Toujours. Enfin, moi, je sais que il y a quasiment pas une chronique sur laquelle après derrière il y a pas un retour difficile pour une partie des auditeurs. Ça, c'est évident. Une fois, j'ai fait une chronique sur le handicap et il y a des personnes qui m'ont dit ça fait du bien qu'on puisse rire de notre handicap. Et puis il y a d'autres personnes qui m'ont appris des mots comme en me disant que j'étais validiste. Alors validiste, c'est un terme que je connaissais pas. Mais c'est le fait de promouvoir, on va dire, la ségrégation entre les personnes dites valides et les personnes handicapées. Et donc j'ai compris que ma chronique, parce que j'avais dit, elle était validiste. Et en fait, il y a de toute façon, quel que soit, je pense, le thème, il y a toujours des personnes qui par l'humour peuvent se sentir blessées par les propos. Et donc cette ça, je pense qu'on n'y échappe pas. On n'y échappe pas, quoi.
Mais à travers ce que vous dites, si j'entends bien que ce qui vous gêne principalement, c'est les atteintes, disons, à l'intégrité physique des personnes. Là, on n'est pas dans le domaine des idées, par exemple, des croyances.
Ah non, non, non. C'est, bah après, en fait, là, c'est vrai que là, j'ai parlé du handicap ou de la maladie, mais évidemment que ce qui se passe après pour la religion, c'est là. Je pense que je vais me retrouver dans les mêmes situations où ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire que le à partir du moment où on propose un point de vue, bah, il y a ceux qui se sentent portés par le point de vue, il y a ceux qui se sentent en face, et l'humour, elle est sur cette limite-là. Et y compris dans le cas des croyances, bien évidemment qu'il y a des gens qui savent rire de leur c'est même pas savoir rire, il y a des gens qui vont rire d'une phrase et puis d'autres qui vont se sentir heurtés. Après, ce qui est compliqué, c'est peut-être à l'échelle collective de savoir comment justement on parvient à avoir ce recul ou pas par rapport à quelque chose qu'on peut qualifier comme étant de l'humour. Quelle est la limite entre l'humour et la moquerie? C'est ça qui est toujours très compliqué, je trouve, à définir. Voilà, en tout cas, pour moi, je sais que ça me pose. Je veux pas dire que ça me fait faire pas mal de nuits blanches.
Mais, oui, mais donc pour vous, il y a une limite. Donc pour vous, il y a des limites. Il y a des limites. Bah,
en fait, il y a des limites, mais qui sont jamais les mêmes et qui sont propres à chaque personne à qui on s'adresse. Moi, très égoïstement, moi, je suis atteinte quand la personne, elle est atteinte. C'est-à-dire que globalement, moi, dans ma tête, je fais de l'humour très politiquement incorrect. Je veux pas dire que des fois je le fais pas. Il y a des blagues que je vais assumer. Je vois même pas des fois pourquoi ça peut heurter. Et puis quand la personne me l'explique, je me dis ah, merde, et ça m'ennuie de l'avoir blessé. Ça me fait mal de l'avoir blessé. Je me dis mince, là, j'ai pas jouer mon rôle, ou ça me pose une difficulté d'avoir blessé quelqu'un, et en même temps je vois bien que si à chaque fois sur chaque phrase je passe de temps à peser, me dire le pour le contre, est-ce que je la fais ou pas, je vois bien que je me prive de beaucoup de choses qui me feraient juste moi, soit qui me feraient d'autres.
Donc, c'est presque insoluble, Plantu.
Oh ben, j'arrête pas de hocher la tête depuis que je vous entends, parce que j'adore ce que vous dites et j'adore vos sketchs d'ailleurs. Et je hoche tellement la tête, tellement je suis d'accord avec vous, que j'ai un torticolis.
C'est à vous, hein, c'est à vous, Nicole, qu'il parle, c'est pas à moi.
Oui, c'est à vous, Nicole, que je parle et je vous aime beaucoup.
Oui. Oh, merci, M. Plantu.
Voilà. Voilà
François, je pense que une des limites, une des frontières, c'est la frontière entre l'attaque ad hominem ou ad feminem, et l'humour noir. Moi, j'ai travaillé dans le livre dont vous avez parlé tout à l'heure. Mon premier chapitre, c'est sur Harakiri, le début d'Harakiri, c'est-à-dire 1960. Et Harakiri, dès le départ, a dit « Nous, on n'a pas de tête de Turc, on va pas prendre des têtes de Turc ». Il faisait de l'humour noir, qui était extrêmement dur, c'est-à-dire c'est le début d'ailleurs de Reiser, de Cabu, etc. Et il se fichait véritablement très fortement d'un certain nombre de tabous. Je pense à un dessin, par exemple, qui était « Ayez vos pauvres, madame, pour vous distraire, prenez soit un prof d'université, soit un mendiant, etc. Prenez vos pauvres ». Alors évidemment, je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait faire ça, au premier degré, ça serait révoltant pour beaucoup de gens. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, ça prenait en compte des tabous, c'est-à-dire qu'on a tous, c'est-à-dire, les pauvres, je vais donner un peu d'argent, et puis après, j'aurai la conscience tranquille. Ou il y avait un très bon dessin aussi sur un médecin qui tend un revolver à son patient, lui disant, je crois que là, maintenant, il n'y a plus que ça à faire.
Là, c'est de l'humour noir. Ça.
C'est de l'humour noir, voilà. Et c'est l'humour noir, je ne sais pas si on peut encore le pratiquer beaucoup, mais il est très important.
L'anathème sur personne et
voilà,
ça ne prend pas de tête de Turc.
Voilà, voilà. Voilà.
Avec nous, merci à vous, Nicole Ferroni. Donc, tous les mercredis sur France Inter, évidemment, à 9h-5. Nicole qui publie aussi Améliore ta vie pourrie. Grâce à Nicole et Sandra, livre écrit avec Sandra Colombo aux éditions du Cherche Midi. Avec nous en ligne, Frédéric qui nous appelle de Pau. Bonsoir, Frédéric.
Oui, bonsoir à tous. Moi, je voudrais dénoncer un petit peu un climat d'agressivité généralisée qui fait que tout le monde se heurte un petit peu dès qu'on fait de l'humour. Alors, je ne parle pas en plus de l'humour au second degré qui m'a valu, moi, des tonnes d'ennemis. Mais je voudrais surtout dénoncer la prétention, à mon avis, insupportable de toutes les religions confondues qui prétendent, relever du sacré et de ce côté-là, échapper à l'humour, à l'ironie, l'ironie et à la moquerie. Alors que je rappelle que les religions sont fondées sur une hypothèse uniquement. La foi est tout à fait respectable, mais ce n'est qu'une hypothèse. Alors j'avoue que prétendre qu'une hypothèse doit être sacrée ne doit pas être moquée. Moi, c'est absolument épouvantable pour moi. Et j'invite donc toutes les religions et tous les religieux, disons, à se prendre un peu moins au sérieux.
Et vous êtes humoriste, Frédéric ?
Non, je ne suis pas humoriste.
Ah, parce que vous dites que vous avez eu plein d'ennuis, donc.
Non, parce que je fais de l'humour comme tout le monde.
En fin de soirée.
Voilà, tout le temps. Et bon, je fais de l'humour un petit peu au second degré.
D'accord.
Et puis, de temps en temps, c'est mal compris. Voilà, et ça me revient en pleine figure, effectivement.
Alors, la pression religieuse sur les humoristes, Plantu, ça, et sur les dessinateurs, ça, vous connaissez, évidemment.
C'est tout le temps. D'ailleurs, j'ai eu des procès. Et heureusement, j'ai été relaxé à chaque fois. Mais je pense à un dessin de notre association Cartooning for Peace, d'un Hollandais qui s'appelle Janko. Et il a dessiné un petit bonhomme qui tient une échelle à propos des religions et de la croyance et du doute. Et donc, en haut de l'échelle, il y a un petit bonhomme qu'on ne voit plus, mais il a le petit cul qui dépasse d'un nuage. Et puis, il a la tête dans la nuage. Et celui qui est en bas, il dit « Alors ?» en interrogation, et c'est un dessin tout simplement sur le doute. Et ben, notre association Cartooning for Peace, on la propose, cette exposition, il y a ce dessin-là, entre autres, dans tous les endroits de la Méditerranée, autour de la Méditerranée. Et ben, je vous dirai pas quel pays, mais il y a des pays où tout le monde m'a dit « Oh, c'est super, ce dessin, on l'aime beaucoup, mais on ne pourra pas le publier, votre expo, dans notre pays, parce que chez nous, le doute est interdit. » Et je rejoins à ce que dit votre auditeur Frédéric, c'est que effectivement, il y a des fois une régression sur l'humour et la religion qui fait que on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on pouvait faire avant et qu'on ne peut plus faire. Faire un dessin sur le doute dans certains pays de la Méditerranée, c'est casse-gueule.
La pression religieuse est évidemment beaucoup plus forte aujourd'hui, François Josse, qu'à l'époque de Harakiri.
Bien sûr, cela dit, alors Harakiri se moquait notamment du christianisme abondamment.
Hein, essentiellement.
Avec, par exemple, un lion dans une arène qui dit « encore du chrétien ». Bon,
ils avaient même publié « Hitler égale SS » de Villemin, toutes les BD sur la Shoah, et ils faisaient de l'humour sur la Shoah, des Allemands, dont un qui disait « tu te rends compte, il est 11h du matin, ils sont encore en pyjama ». Eh bien, moi, j'aime bien cet humour-là, et aujourd'hui, c'est casse-gueule.
Cela dit, il faut quand même préciser qu'au bout de 6 mois, Harakiri était interdit à la vente et à l'affichage, donc c'était pas si simple non plus.
Et c'est encore plus difficile.
Mais c'était pour autre chose.
C'était pour...
Parce que c'était Colombet, peut-être, entre autres.
Non, ça c'est ça, après. C'était
la deuxième période.
Mais la BD en question...
Je parle du premier
question...
Harakiri, hein, le magazine satirique, comme il était dit, bête et méchant.
Et quand Villemin a sorti la BD il y a plus de 30 ans, elle a été finalement interdite par la justice. C'est incroyable. Ce qui fait que, pour vous dire qu'on est dans cette montée de l'islamophobie et de l'antisémitisme que je ressens dans certains coins, heureusement pas partout, mais dans certaines écoles, je me dis, il y a plein de gamins qui me disent, mais en gros, il y a deux poids deux mesures et on peut rire de certaines choses et pas de certaines autres. Et je l'entends et c'est un vrai problème qu'il faut absolument, il faut en débattre dès maintenant parce qu'il faut absolument dédramatiser cet échange sur ce débat, sur ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Il faut le dédramatiser en respectant les élèves et en leur disant « Écoute, je ne suis pas d'accord avec toi, mais on va essayer d'en débattre calmement. » Aujourd'hui, on ne peut même pas en débattre dans certains endroits. C'est pour ça que j'avais fait ce dessin sur les professeurs.
France Inter, le 18-20. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
En ligne avec nous également Tanguy Pastureau, tous les jours à 12h10 dans la bande originale avec Nagui sur France Inter et le dimanche soir sur C8 dans Salut les Terriens. Bonsoir Tanguy.
Bonsoir Yves.
Alors pour vous, le problème, si j'ai bien compris votre point de vue, c'est un peu Monsieur Tout-le-Monde. C'est Monsieur Tout-le-Monde qui réagit le plus, hein.
Non, en fait, c'est ça, c'est pas le problème, si vous voulez, mais c'est une nouvelle donnée qu'il y a à prendre en compte, c'est la puissance des réseaux sociaux, si vous voulez, qui fait que dès qu'on fait une chronique, en règle générale, on a, alors si on fait une chronique sur Mélenchon, on a les fans de Mélenchon qui réagissent. Si on fait une chronique sur le handicap, on a les parkinsoniens, enfin, etc. On a toujours quelqu'un, en fait, qui vient nous dire que ce qu'on vient de faire n'était pas bien, quoi. Et je trouve que c'est ça qui est difficile, c'est-à-dire que, en fait, ce sont, c'est le regard, eh bien, du peuple, tout simplement, des auditeurs qui nous revient en pleine face. Chose que évidemment les humoristes des décennies précédentes n'avaient pas, parce que je crois qu'il n'y avait pas, à moins que quelqu'un s'adresse directement à eux dans la rue, mais enfin le retour n'était pas aussi immédiat. D'où le doute un peu, à mon sens, de l'humoriste qui en permanence est abreuvé, si vous voulez, de messages qui valide ou pas ce qu'il vient de dire. Et c'est vrai que c'est quand même assez difficile parce que tout le monde a un avis sur chaque phrase d'une chronique. Tout est disséqué et en 4 minutes 30, vous allez du coup fâcher à peu près 20 catégories de personnes qui d'un coup peuvent vous le dire. Donc c'est ça qui, à mon sens, est assez déstabilisant.
Donc ce qui pèse beaucoup sur vous, c'est les retours que vous imaginez.
Je les imagine pas, je les lis en fait, hein. Ce sont des notifications sur Twitter, sur Facebook.
Oui, mais avant d'écrire, vous vous dites, oh là là, si j'écris ça, vous vous auto-censurez.
J'essaye de pas me dire ça, justement, tout en sachant quand même qu'il y aura ces réactions-là. Et que ces réactions-là, si vous voulez, c'est ce que disait Nicole Ferroni, quoi. Quand on sent qu'on a blessé quelqu'un, on n'est jamais très très content. Moi, je crois qu'il faut prendre beaucoup de distance par rapport à ça et quasiment pas les regarder. Mais en fait, c'est difficile de pas les regarder aussi, puisqu'on perd quand même, un indice, quoi, pour savoir, si ce qu'on dit est dans l'air du temps, quoi, si ça correspond à l'époque ou si on est complètement à côté de la plaque. Donc à la fois c'est quelque chose qu'on est obligé de prendre en compte et à la fois c'est très compliqué, tout se ressentit en fait, puisque on est toujours en train de blesser quelqu'un, quoi. Moi je crois qu'il y a beaucoup de victimes maintenant. Les gens s'imaginent en tant que victimes à la place des rieurs, quoi. Avant on essayait de rire. Maintenant, on voit qui peut nous blesser et dans quel sens cette personne peut nous blesser.
Alors, en revanche, aucun retour des corps constitués. On parlait de pression religieuse à l'instant, mais pour vous, c'est pas là le plus difficile. C'est pas là le problème.
Non. Le plus difficile, c'est que chaque catégorie de personnes va se sentir blessée par telle ou telle allusion ou parfois même. Alors, ça va d'un truc tout bête, quoi. Vous employez une image avec un chanteur connu, par exemple, mais juste pour le placer dans une métaphore, pour le comparer à quelque chose, immédiatement, vous avez 500 messages de fans de ce chanteur. Après, ça, c'est pas très, très grave.
Non.
Mais effectivement, en politique, on peut quasiment tout dire, quoi. On peut vraiment traiter Macron quasiment de tous les noms. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est vrai que dès qu'on touche à nous autres, quoi, à des catégories du public, finalement, mais qui nous représentent aussi, c'est là où c'est compliqué.
Tanguy Pastureau, tous les jours à 12h10 dans la bande originale, merci beaucoup. Alors c'est vrai, c'est intéressant ce que disait Tanguy Pastureau, c'est que aujourd'hui tout a changé parce que l'audience est beaucoup plus large. Autrefois, Harakiri, Charlie Hebdo ne s'adressaient qu'à leurs lecteurs. Il fallait un code pour les lire. Aujourd'hui, c'est tout le monde.
Et quand Tanguy Pastureau, que je remercie de son intervention, et quand il parle de, quand on parle d'un artiste, je me souviens que quand j'allais voir Coluche dans les années 70 et 80 dans le Café de la Gare et qu'on était assis par terre et qu'on rigolait, on était 400 à rigoler par terre. Et quand il savait pas quoi dire, Coluche, il parlait du gaufret. Et il se rigolait, il se moquait du gaufret. Mais ça faisait rigoler tout le monde. Et aujourd'hui, si le même Coluche se parlait du gaufret aujourd'hui sur une grande chaîne, eh bien, il y aurait des réseaux sociaux pour dire « Mais arrêtez, on va défendre du gaufret !» Alors qu'on rigolait entre nous. Ouais. Et le côté arrière-salle, comme nous, dessinateurs, avant on pensait avec Charlie Hebdo, avec les dessinateurs que j'aime comme Cabu, on faisait des dessins dans une arrière-salle de Saint-Germain-des-Prés, c'est fini. Maintenant, il y a les réseaux sociaux et maintenant, on ne peut plus rigoler comme avant.
Je crois que effectivement, ce que disait Tanguy Pastureau, moi je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est que il faut pas mythifier, c'était pas 10 fois mieux avant, hein, c'était pas mieux avant. Avant, il y avait une censure verticale, c'est-à-dire que si on dépassait un tout petit peu, si on faisait des écarts trop grands dans l'humour, on se faisait interdire, hein. Les journaux étaient interdits, ou même parfois, les chefs d'État poursuivaient pour offense aux chefs d'État, etc. Aujourd'hui, la censure est horizontale, donc elle est bien pire d'une certaine façon, parce que elle vient de partout. C'est les anonymes, les gens ordinaires, n'importe qui vont dire ça va pas, tu peux pas le dire, etc. Mais c'est vrai pour les humoristes, j'allais dire c'est vrai aussi pour les intellectuels et les penseurs de toutes sortes, hein. Dès qu'on dit quelque chose qui déplaît une fraction, c'est pour ça que je rappelais cette définition de la liberté d'expression qui dit qu'on peut déplaire à une fraction de la population et que c'est le droit qu'on a dans une démocratie. Parce que dans une dictature, il y a aucun problème, il y a les plaisanteries sur Internet. Certaines fictions sont interdites, 160 000 livres sont jetés en dehors des bibliothèques, donc c'est plus simple. Mais chez nous, on doit pouvoir avoir le droit de déplaire à certains.
Il y a un film en ce moment qui devait passer sur une chaîne sur le drame du Bataclan, et je pense que
ça fait réagir les familles. Oui.
Mais justement, ça a plus les réseaux sociaux. Et donc, s'il y a les familles, elles ont le droit de dire ce qu'elles ont envie de dire, bien entendu, mais à la fois, si on ne pense pas qu'il y a en plus les réseaux sociaux qui multiplient un recul par rapport à la liberté de création, ce qui est le cas de cette série.
Sur quelque chose qui n'a pas été encore produit.
Et en plus,
enfin, je veux dire que personne ne
supposé,
connaît.
C'est supposé.
C'est ça qui est ouais, effrayant.
Exactement.
Mais c'est ce que je voudrais citer Riss dans Charlie Hebdo qui disait en parlant de Monsieur Tout le Monde, hein, de cette armée. Il parlait de cette armée de censeurs surgis de nulle part, ces braves gens qui s'imaginent investis d'une moralité exemplaire. Et voilà ce qui, de son point de vue, remet en cause la liberté aujourd'hui comme jamais. Vous adhérez
à tout à fait. Et j'entendais vos Nicole Ferroni ou Tanguy Pastureau, c'est que on de plus en plus, en tant qu'artiste, hein, je vous le dis, en tant que dessinateur, et je pense à eux en tant que stand-up de talent, eh ben, on peut commencer la journée en se disant peut-être que ce soir je serai mangé tout cru. Parce que on est dans le casse-gueule intégral et on a beau avoir prouvé pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 40 ans quelque chose, en l'espace de quelques heures, vous êtes rayé des cadres. Et ça, ça fait un drôle d'effet et ça, c'est un sentiment nouveau que beaucoup d'artistes ressentent aujourd'hui.
Au téléphone. C'est vrai aussi hein, pour les intellectuels, les profs, etc., hein, ce que vous dites, c'est vrai aussi.
Au téléphone avec nous, Fatoumata, qui nous appelle de quelque part en Moselle. Bonsoir Fatoumata, nous vous écoutons.
Oui, bonsoir. Moi, je vais simplement vous dire que j'ai écouté de l'humour une fois, enfin, c'est pas de l'humour, des chroniqueurs de Nagui, l'émission de Nagui, où il était question d'avoir beaucoup de tares, à savoir d'être noire, d'être femme, d'être handicapée, ce qui représentait le summum des tares qu'une personne peut avoir. Mais je trouvais ça extrêmement déplacé. J'aime bien l'humour, comme tout le monde. Je trouve que c'est utile, c'est une soupape qui nous est complètement utile. Mais en même temps, je pense que les chroniqueurs qui ont la verve facile devraient véhiculer quelque chose qui soit plus positif que des attaques de ce type. On devrait se moquer de tout ce qui est déviance morale, je trouve ça utile. On devrait se moquer de tout ce qui est politique, parce que les politiques, c'est notre bien commun à tous, quel que soit le milieu gauche ou droite d'où ils sont. Se moquer, toucher les gens, et en plus se plaindre comme quoi il y a un retour de public qui les juge, etc., ben, je trouve ça déplacé.
Alors c'était peut-être au deuxième degré.
Il faut des fois faire attention parce que des fois il y a des, je pense à Hergé qui avait fait Tintin au Congo et que des fois des gens disent ah oui mais c'est raciste. Faut essayer de calmer les choses.
Alors, faut remettre dans le contexte de l'époque.
Quand on parle de l'humoriste dont vous venez de parler, de Nagui. Ça ne veut pas dire pour autant, et même s'il fait une blague, est-ce que ça veut dire qu'il est raciste? Bien sûr que non. Il n'a pas besoin d'ailleurs de répondre à la question. Il faut qu'il fasse des dérapages pourvu que ce soit des dérapages contrôlés. Voilà, c'est tout. Mais heureusement qu'il y a des dérapages de temps en temps, et je trouve que l'intervention de votre auditrice, elle est très intéressante, et à la fois, il faut surtout se calmer. Il faut que l'artiste puisse dire ce qu'il a envie de dire en se faisant plaisir. Il n'a pas à démontrer s'il
le
est...
Le dérapage contrôlé, Plantu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre en compte le ressenti des gens?
Faut l'entendre, faut l'accompagner, faut essayer de comprendre la culture des autres et ne pas s'empêcher de dire l'essentiel de ce qu'on a envie de dire.
Là-dessus, vous êtes en désaccord avec Riss, qui lui disait si on commence à prendre en compte le ressenti, alors là, on n'en sort plus et c'est complètement arbitraire, c'est notre liberté qui va disparaître.
Non, parce qu'il fait partie d'un journal qui a viré Ciné, quand même. Ça veut dire que le ressenti qu'ils ont ressenti, justement, en virant Ciné, c'est qu'il y avait un petit truc où il a dépassé une mesure, selon eux, et ils l'ont viré, ils l'ont même traité d'antisémite.
François Josse.
Mais je crois qu'il faut surtout ne pas avoir une attitude que le philosophe Ruven Ogien appelait paternaliste. En l'occurrence, les gens, chacun est capable de savoir s'il est choqué ou pas choqué. Ce qui peut être très dangereux, c'est dire non, pour les gens, faisons attention, pas ces blagues-là. Et d'ailleurs, j'ai remarqué récemment que le président Macron, qui parlait des fonctions, des missions de la télévision, était passé de cultiver, distraire, informer, éduquer, distraire, cultiver, et la distraction même a été un petit peu repoussée par un sénateur d'En Marche. C'est assez dangereux de dire, nous on sait pour vous, nous on regarde pas la télé de toute façon, mais pour vous, il faudrait pas que vous voyiez ce type de plaisanterie. Chacun est jouit d'une égale considération, comme dit Ogien, et on n'a pas à dire pour autrui ce qu'il doit accepter ou non.
Alors, on parlait de ressenti à l'instant. En ligne avec nous, cette fois, Océane Rosemary, dont le spectacle Chaton violent sera repris à partir du 14 janvier au Théâtre des Béliers parisiens. Tous les dimanches, Rosemary, bonsoir.
Bonsoir.
Océane, Océane, pardon. Océane Rosemary. Vous publiez une tribune hein, dans Libération. Elle est déjà en ligne, d'ailleurs. Une tribune qui s'intitule « À qui profite le rire ?» Pour vous, l'humoriste doit être responsable et se fixer un cadre, pour ne pas dire des limites, un cadre.
Ben, en fait, je sais pas si on peut parler de cadre. Moi, ce que je trouve juste intéressant, et ce n'est que mon point de vue, et c'est une suggestion que voilà que je fais parce qu'on m'a demandé mon avis, je le donne. Après, voilà, on m'a ensuite dit que je voulais faire de la censure. Alors, je rappelle que je ne suis pas du tout à même de censurer qui que ce soit, parce que je suis juste une humoriste qui monte sur scène. Et donc, je n'ai vraiment pas le pouvoir, même si je voulais envoyer plein d'humoristes dans un goulag, je ne serais pas en mesure de le faire. Donc voilà, mon avis, c'est juste qu'il me semble plus intéressant de se demander, en effet, à qui profite nos blagues. Et je sens qu'il y a beaucoup de tensions sur ce sujet-là en ce moment, parce que, en effet, il y a énormément de gens qui se sont habitués, je dirais, à pouvoir faire des blagues qui sont toujours des blagues de dominants, en fait, c'est-à-dire des blagues sexistes, racistes, qui se moquent des grosses, des handicapés. Et voilà, c'est un peu une culture, je dirais, française, qu'on a depuis longtemps, qui a été longtemps acceptée, et c'est vrai que maintenant, il y a des gens qui s'indignent, qui ne sont plus d'accord, et je dis juste que je trouve ça bien qu'ils puissent le dire, et qu'il y ait tout d'un coup, entre guillemets, des gens qui s'insurgent. Et nous, en tant qu'humoristes, il me semble intéressant de nous poser la question de l'intérêt de nos blagues et de dans quel système de domination ils s'inscrivent. En fait, ce que je dis dans ma tribune et qui me semble important de rappeler, c'est que l'humour n'est pas déconnecté de la réalité sociale. Et notre réalité en France, c'est qu'il y a des discriminations qui sont effectives. Je veux dire, aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, les jeunes noirs et arabes sont contrôlés 10 fois plus en métro que des jeunes blancs. Bon, voilà, c'est un exemple. Les prisons, aujourd'hui, sont beaucoup plus pleines de noirs et d'arabes que de blancs. Bon.
Et donc, il ne faut pas.
Ils sont régulièrement agressés.
Et donc, il ne faut pas en rire, il ne faut pas le dire, il ne faut pas en rire?
Au contraire, il faut le dire. Mais il me semble plus intéressant de rire contre le pouvoir, en tout cas, ou de se positionner comme un contre-pouvoir, comme d'ailleurs le faisait Coluche ou des proches, puisqu'on les cite en permanence comme des références, plutôt que d'aller dans le sens de ce qui est déjà un système écrasant et de domination. Vous comprenez? C'est-à-dire que, pour moi, à aucun moment, je ne pense qu'il y a des sujets qu'il ne faudrait pas aborder. Au contraire, je suis tout à fait d'accord que le rire est cathartique et qu'il faut parler de tout et des attentats et de tout ce que vous voulez. Après, c'est vrai que, je cite cet exemple dans ma tribune encore une fois, l'exemple de la couve de Charlie Hebdo après les attentats de Barcelone, fait un dessin avec des cadavres et qui écrit l'islam, une religion de paix.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils entretiennent à ce moment-là une confusion que font déjà beaucoup de gens entre l'islam et les terroristes, alors que les musulmans sont les premières victimes de Daesh et d'Al-Qaïda. Et moi, ce que je dis juste, c'est que, en effet, super, faisons une blague sur cet événement terrible, faisons une blague cathartique, mais faisons-le dans ce cas-là avec les musulmans. Pourquoi, dans ce cas-là, Charlie Hebdo n'essaye pas de trouver un point, puisque eux-mêmes ont subi les attaques de Daesh et qui peuvent rire avec les musulmans contre Daesh et non pas contre les musulmans, alors que ils s'en prennent, excusez-moi, déjà suffisamment plein la gueule dans la société française actuelle depuis qu'il y a tous les attentats.
On a bien compris donc l'humour avec un peu plus de discernement. François Josse,
moi je me méfie un petit peu des...
Oui, je vous ai vu un peu réagir.
Oui, je suis un peu méfiant par rapport à des choses qui seraient à faire et d'autres qui seraient pas à faire. Je pense qu'il y a une liberté là qui est nécessaire dans le cadre qu'on a précisé tout à l'heure.
Ce titre, l'islam, vraiment religion de paix, est-ce que ça vous choque ou pas?
Ça me choque pas parce que je comprends très bien quelle est la plaisanterie qu'il y a, je veux dire, qui est un paradoxe entre l'islam religion de paix et l'attentat. C'est un paradoxe, ça veut pas dire que on attaque tout le monde. Enfin, ça ne me choque pas.
Parce que Océane Rosemary, on ferait le même humour vis-à-vis du Vatican, par exemple, ça vous choquerait moins?
Ça me choquerait moi tout simplement pour la simple raison que les personnes catholiques aujourd'hui en France ne vivent pas la discrimination et la violence que subissent les musulmans aujourd'hui en France. Ils sont recensés, ces chiffres, les attaques sur les femmes voilées depuis les premiers attentats, la discrimination à l'embauche, au logement. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on appelle du racisme systémique. C'est-à-dire que ça fait système. Alors que les catholiques, aujourd'hui, qui cherchent un appart ou un travail, bon, a priori, il n'y a pas de problème, quoi. Donc c'est pour ça que quand on fait des comparaisons, en disant, on peut plus... Tout à l'heure, je l'humoriste tout à l'heure,
que tout se vaut et qu'on ne peut plus rien dire sur personne. Non, pour moi, c'est juste prendre en compte ce racisme systémique ou ces dominations systémiques. On sait qu'aujourd'hui, la violence sur les femmes, c'est quelque chose d'énorme. Donc, faire une blague sur la violence faite aux femmes, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas aborder ce sujet. Mais
donc là, vous parlez de l'animateur Tex.
Mais je crois quand même.
François Josse vous répond qu'il
ne faut pas confondre les mots et les choses. Ce qui est problématique, c'est la violence faite aux femmes. C'est pas l'humour qu'on peut faire dessus. Ce qui est problématique, c'est qu'un handicapé puisse pas rentrer dans une station de métro.
Vous serez tous d'accord.
Mais c'est ça le problème du handicapé, c'est qu'il ne peut pas vivre dans la société que dans laquelle il est, parce que tout est un obstacle. Mais on peut faire des plaisanteries. Alors Harakiri ne faisait que ça au début. Des grands sociologues comme Erwin Goffman, qui a été le premier à faire un livre sur la stigmatisation, disait les handicapés savent rire d'eux-mêmes. Regardez la très bonne série qui est sur France 2, qui s'appelle Vestiaire, qui met en scène que des handicapés qui plaisantent avec leur handicap. Donc, simplement, la question toujours est de savoir qui parle, qui fait la plaisanterie. On peut accepter que Patricia, elle s'appelle pas Patricia, mais Gbagbo, par exemple, prenne l'accent africain très stéréotypé. Parce qu'elle est africaine, alors que c'est choquant quand c'est Michel Lem.
Alors, vous parliez de... Merci aussi à Anne-Rosemarie, donc à lire dans Libération, je crois, le 3 janvier, votre point de vue. François Josse, vous parliez de Harakiri, justement. Harakiri voyait dans l'humour un message... au peuple. Harakiri se faisait l'intermédiaire entre les élites et le peuple.
Voilà, et avait critiquait des choses très 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 durement. C'est-à-dire que Harakiri a été dans les premiers numéros, je l'ai étudié sur la première année, dans les premiers numéros, permettait par exemple l'homosexualité qui était réprimée par la loi très fortement, par la loi de 1960. Ils attaquaient, je me rappelle une page d'Harakiri absolument extraordinaire, où l'on voit le général Massu qui avait été fait la libération d'Alger dans des conditions extrêmement violentes, à côté d'un singe qui fait le salut militaire. Et c'était au moment du manifeste 21, etc. Donc effectivement, ça disait quelque chose, ça luttait contre les institutions figée de la Ve République, et on a vu d'ailleurs quelques années après que ça éclatait en 68.
On va laisser le dernier mot à Claude qui nous appelle de Saint-Galmier. Je vais vous demander d'aller assez vite, Claude.
Oui, et ben voilà, mon idée c'est qu'on doit pouvoir rire de absolument de tout, que c'est presque même, ce serait presque une injonction pour une certaine salubrité publique, parce que je pense qu'on doit pouvoir prendre la distance par rapport à soi-même quand on vit en société, et qu'il n'y a pas une occasion à perdre de rire et de plaisanter, d'utiliser les mots pour tout en ayant une vie absolument normale et digne. Voilà.
Rien ne vous choque jamais dans l'humour, dans les sketchs, dans les dessins de presse, rien?
Non, absolument pas. Absolument pas.
Ça va, voilà qui va faire plaisir à Plantu.
Oh, mais moi j'aime bien ce petit côté. C'est-à-dire que ça me fait plaisir ce que j'entends, mais à la fois, évidemment qu'on a envie d'être aimé. Quand on fait un dessin, on a envie d'être aimé par tout le monde. Et à la fois, de temps en temps, quand je vois que ça a coincé, je me dis, tiens, j'ai peut-être fait bouger un petit peu le petit curseur, et ça me fait du bien de me dire, tiens, j'ai peut-être servi à quelque chose. Vous savez, un dessinateur, quand il se lève le matin, il dit, bon, je sers à rien, mais je vais faire comme si je servais à quelque chose. Et donc, on fait des images qui asticotent, et au bout d'un certain temps, on se dit, ah, mais finalement, j'aime bien ce que... J'ai rencontré Juppé il n'y a pas longtemps, Alain Juppé, à Bordeaux, et finalement, c'est vrai qu'il était plutôt agréable quand il me parlait l'autre jour à Bordeaux, et à la fois, on était dans une classe avec des petits-enfants, et c'était mignon comme tout, et à la fois, il me parlait, et je me remémorais tous les dessins que j'ai faits dans les années 90 sur lui, et il m'en voulait pas trop, ça se voyait, et je me disais, bon, il m'a un peu pardonné, parce que c'est vrai que je l'avais un peu asticoté. Et
l'autre jour, ça les rend même populaires, parfois.
Oui, d'accord, mais enfin, François Hollande, il dit que je l'ai torturé, vous voyez, et donc, ça fait partie du boulot, et Mitterrand m'a interpellé, il me disait, vous, faites gaffe, vous pouvez tuez-vous. Alors je disais, mais attendez, monsieur le président, ça va Non, vous pouvez tuer. Alors il se marrait pas, mais je dis, bon, j'ai pas rigolé avec lui.
On a beaucoup dit que la marionnette des Guignols avait fait beaucoup de bien à Jacques Chirac. François Josse, un dernier mot?
Je pense toujours que les plaisanteries dépendent aussi de ceux qui les font, et que toutes les plaisanteries, certaines plaisanteries dites par les uns sont drôles, et dans les autres, par d'autres, sont inquiétantes.
Voilà, ça, on peut rire de tout, mais ça dépend qui le fait.
Voilà.
Voilà, pour changer un petit peu la formule.
Et il faut aller dans les écoles, c'est ce qu'on fait, pour essayer de réécouter un petit peu la culture de chacun et leur dire, on vous respecte, respectez-nous, on va essayer de travailler ensemble et on va faire ensemble un travail et un beau débat
sur
la ligne rouge qu'il faut dépasser de temps en temps.
Merci à vous, Plantu et François Josse, merci.